Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Trois Coups sur les Ondes. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que dans Les Trois Coups sur les Ondes, on vous parle de pièces produites sur scène lors du Festival des Trois Coups. Hors Covid, le festival se tient de mars à avril. Mais cette année, la culture est bouleversée et le festival s'adapte en diffusant les pièces produites sur sa chaîne YouTube et Twitch à partir du 5 avril. Tout au long de cette émission, vous aurez l'habitude d'entendre plusieurs voix. Aujourd'hui, vous m'entendrez moi, Doriane Rochet, notre chroniqueur Justin Loisy, et mes invités Nicolas Barré et Manon Hennette Huban. Et pour cet épisode, on va vous parler de Phèdre, mise en scène par Nicolas Barré. Bienvenue dans Les Trois Coups sur les Ondes. Dans cette classique tragédie, Phèdre éprouve un amour fou pour son beau-fils Hippolyte. Croyant son époux Thésée mort au combat, elle avoue sa passion coupable au jeune homme. Mais celui-ci en aime une autre. Je vous laisse maintenant avec Justin Loisy, qui va nous parler d'une autre tragédie, tout aussi connue, Titanic.
Phèdre, de Jean Racine, est une tragédie d'un auteur classique au sommet de son art. Elle met en scène la lutte désespérée de personnages poursuivis par la fatalité. Elle est rythmée par la violence de l'intrigue, de l'orgueil et des passions. J'ai donc décidé de faire un parallèle avec le film de James Cameron, Titanic. Deux thèmes simples, mais parfaitement amenés, font de ces productions des chefs-d'œuvre intemporels, l'héroïsme et l'amour passionnel. Racine écrit dans sa préface « Phèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. Elle est engagée, par sa destinée et par la colère des dieux, dans une passion illégitime. Elle fait tous ses efforts pour la surmonter. C'est là que réside une des clés de compréhension du personnage de Phèdre. Elle reste une héroïne, mais d'un héroïsme particulier, propre à Jean Racine. Un héroïsme intérieur, qui est celui du combat contre sa passion coupable, tout comme Rose, coupable d'aimer un homme trop différent. Au sein du film, cet héroïsme se retrouve dans plusieurs scènes, tout aussi cultes les unes que les autres. Lorsque le navire commence à sombrer, Jack est menotté dans les cales à la suite du faux vol duquel on l'accuse. On assiste alors au sacrifice de Rose qui, sacrifiant sa place sur un canot de sauvetage et risquant sa vie, libère Jack d'une noyade certaine. Et peu de temps après, le moment que tout le monde connaît et redoute, Jack, dans une ultime preuve d'amour, sauvera Rose au détriment de sa vie, en sacrifiant sa place sur la planche de bois qui lui sert de radeau. L'amour, dans Phèdre, est toujours un amour impossible. Son amour pour Hippolyte est marqué du sceau de la culpabilité et de l'inceste, et celui entre Hippolyte et Aricie est un amour interdit pour des raisons politiques. Et c'est exactement la même chose pour nos deux protagonistes. L'amour entre Jack et Rose est aussi un amour interdit. L'un est un artiste pauvre, l'autre vient d'une grande lignée très riche. Tout les oppose. Mais Rose jalouse la liberté de Jack. Elle veut se libérer des contraintes imposées par son entourage. Allant à l'encontre des normes de sa famille, elle fréquente tout de même ce passager de troisième classe. Mais si son mariage n'a pas lieu, leur famille, ruinée, perdra tout. Rose culpabilise alors pour la prospérité des siens, mais sa passion pour Jack la rattrape aussitôt. La passion est le ressort tragique de la pièce de Racine. Il s'agit d'une passion incestueuse qui vient d'une malédiction lointaine puisque Phèdre était condamné à vivre une passion interdite en raison de la vengeance de Vénus. La passion entraîne inéluctablement la tragédie. C'est cette passion qui scelle le destin de nos héros. Si les deux personnages ne s'étaient pas pris d'un amour aussi fort, qui sait ce qui aurait pu arriver? Et si Jack et Rose ne s'étaient jamais rencontrés? Peut-être auraient-ils survécu tous les deux à ce naufrage, chacun de leur côté. Les deux marins, scrutant l'horizon en haut du bateau, plus occupés à observer les deux câlins des amoureux que l'océan, aurait peut-être aperçu l'iceberg plus tôt, évitant ainsi cette tragédie. Mais nous aurions été privés de trop de sensations. Alors, au cœur de la tragédie du monde, symbolisée dans le film par le bateau, réputé insubmersible, nous naviguons dans la nuit. Les obstacles, nous les sous-estimons toujours. Mais ils sont là, et tôt ou tard, il condamne notre orgueil au naufrage. Ce qui était vrai le 14 avril 1912 reste vrai aujourd'hui. Mais dans l'obscurité de nos erreurs, de nos aveuglements et de nos fautes, il est un espoir qui peut tout changer, celui d'un amour plus fort que la mort. Titanic, tout comme Phèdre, nous invite à réévaluer nos conceptions de l'amour.
Nous accueillons maintenant Nicolas Barré qui met en scène la célèbre pièce de Jean Racine, Phèdre, et Manon Hennette Duban qui joue le rôle de Phèdre. Je vais commencer par vous poser la question, pourquoi avoir choisi une pièce classique ?
Moi j'ai choisi cette pièce parce que j'avais vu un sketch de Florence Foresti, c'était dans la présentation des Molières, où elle reprenait justement Phèdre, et c'était en comique, je trouvais ça très drôle. Et donc, j'avais envie de m'inspirer de ça pour mettre la scène entièrement en comique. Et donc, voilà.
Donc, du coup, en fait, c'est quand même une pièce qui est très longue. Comment tu as fait pour choisir quoi garder, quoi enlever ?
J'ai essayé de... Je voulais absolument diminuer parce qu'à la base, je n'étais pas censé mettre Phèdre en scène. Je mettais en scène une pièce que j'avais écrite moi-même. Et sauf qu'on a dû annuler parce qu'on était beaucoup trop. Et donc, il fallait que je trouve un moyen de mettre en scène quelque chose d'autre. C'est pour ça que j'ai choisi Phèdre. Et donc, vu qu'on a commencé les répétitions à 3 semaines, et donc, il fallait qu'on diminue le temps. Et je voulais passer, vu que la pièce, elle fait 3 heures en tout, je voulais absolument diminuer le texte. Et j'ai coupé en enlevant des personnages comme Arissi et Smen, qui n'étaient pas forcément très utiles à l'avancer la pièce à mon goût, je trouvais. Et aussi, elles sont utiles dans le sens où c'est pour la beauté de la pièce, et puis elles ont un rôle dans la pièce aussi, mais juste les évoquer, je trouvais ça suffisant. Et donc j'ai essayé de supprimer ces personnages-là, il y avait aussi des longues répliques où c'est plus du blabla pour la beauté du texte, et donc ça aussi j'ai un peu coupé.
Et toi du coup Manon, en tant que comédienne, qu'est-ce que ça implique de jouer une pièce classique ?
Du coup, c'est intéressant parce que c'est des pièces qu'on connaît bien, qu'on a souvent étudiées en cours. Et c'est, je sais pas, c'est intéressant de jouer ce genre de pièces qui sont très connues et de les jouer à sa manière.
Donc, c'est une pièce qui parle de mythologie. Je voulais savoir si dans la pièce, il y avait un lien avec la mythologie ou est-ce que vous aviez complètement enlevé cette partie-là ?
Il est toujours dans le texte parce qu'on ne pouvait pas modifier le texte en entier, c'est évident, mais dans l'aspect mise en scène, c'est totalement supprimé. J'ai essayé de rendre les choses modernes. Il y a des téléphones, des ordinateurs, on est dans des salons, même les personnages sont séparés dans plusieurs pièces. Donc voilà.
Et du coup, j'avais une question un peu plus... Pourquoi Phèdre ? Pourquoi pas une autre pièce classique ?
Comme j'ai dit, oui, c'était surtout par rapport à Florence Foresti, mais c'est aussi que Phèdre, c'est une pièce qu'on a beaucoup étudiée au collège, au lycée, et je trouvais ça intéressant de remettre en scène un aussi grand classique. Je trouve que c'est un peu un défi, et je trouve ça très intéressant.
Tu as dit juste avant que tu voulais mettre la pièce moderne, enfin de façon moderne. Comment tu as fait pour le faire ?
Comme j'ai un peu évoqué, en fait, j'ai séparé déjà les personnages en plusieurs groupes. Donc il y a Thésée, Œnone et Phèdre qui habitent ensemble. Il y a Hippolyte et Théramène qui sont de leur côté et Panope qui est de son côté toute seule. Et donc ils communiquent déjà par téléphone, par visio. Donc déjà, ça c'est un côté moderne et qui aussi permet de s'adapter au contexte actuel qui est un peu compliqué pour les répétitions, autant que pour les représentations. Et aussi dans la mise en scène, pour rendre moderne tout ça, j'ai essayé de, oui, comme j'ai dit, mettre dans des salons. Le décor, ce sera simple, ça pourrait être comme chez tout le monde. Et oui, c'est à peu près tout. Il y a aussi le fait que ce soit comique, oui, qui rend aussi plus moderne, évidemment.
Si Phèdre avait vécu aujourd'hui, comment vous l'imaginez tous les deux avec votre regard à la fois de comédienne et à la fois de metteur en scène?
Je te laisse parler en premier.
Je l'imagine comme une femme assez tourmentée.
Ou sinon, comment toi tu la joues? Qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage, etc.
Bah, ce qui me plaît dans ce personnage, c'est que c'est un personnage complexe. Justement que elle fait des erreurs, mais elle s'en rend compte.
Quels sont les thèmes que vous avez décidé d'aborder dans la pièce, qui est quand même très large?
Bah, de toute façon, c'est toujours les thèmes de base. Donc, il y a l'inceste. Mais la façon dont il est traité, du coup, ça paraît un peu moins grave, vu que c'est du côté comique. Mais d'un côté, ça permet aussi, oui, d'approfondir la gravité de la chose, parce que le comique, ça permet de mieux comprendre aussi. Donc, ouais, c'est juste abordé d'une manière différente, déjà, pour ce côté-là. Et puis, oui, le fait que ce soit un peu en distanciel, ça permet aussi d'aborder, oui, le contexte du Covid, on va dire. Il y a aussi... Ah oui, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pas précisé. Mais Phèdre est joué au début en étant bourré. Donc, on peut dire que c'est aussi un peu moderniser la chose. On voit un peu le fait qu'être bourré en étant triste, c'est pas toujours très fameux. On peut faire des erreurs. Et donc, oui, ça peut être aussi un peu intéressant à évoquer.
Pourquoi avoir amené ce côté bourré à ce personnage?
En fait, en lisant le texte, je trouvais que ça allait très bien sur le personnage, parce que il y a des répliques, on se dit, mais en se disant ça bourré, ça paraît tout naturel. Et puis c'est pareil, je trouve que vu qu'on est étudiant, on sait très bien, il y a beaucoup d'étudiants qui se bourrent la gueule, clairement. Et donc je trouvais ça assez amusant, parce que ça permet, ouais, de refléter un peu notre génération sur certains points, pas surtout évidemment.
Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses par rapport à cet aspect-là de la personnalité de Fed qui a été rajoutée à la pièce classique?
Je pense que c'est aussi une volonté de moderniser la pièce un petit peu. Comme a dit Nicolas, c'est une référence aux étudiants qu'on aime bien boire de temps en temps. Et c'est aussi pour renforcer son côté de femme tourmentée, qui sait pas bien ce qu'elle fait, qui est... Ouais, c'est ça, tourmentée.
Vous avez un peu choisi de tourner en ridicule les personnages, avec Phèdre qui est bourré, voilà. Je voulais savoir pourquoi et comment toi tu le joues sur scène.
Je pense que s'il a voulu modifier un petit peu le sens tragique de la pièce, en faisant des dialogues plus comiques ou en le faisant jouer de façon comique, c'était justement aussi pour moderniser tout ça. Et personnellement, on a séparé le rôle de Phèdre en deux, et je joue Phèdre sur la deuxième partie de la pièce. Donc c'est la partie la plus tragique. Et donc il y a moins de comique dans ma partie, on va dire. Mais justement, ce qui crée le comique, c'est aussi le décalage entre le tragique et les autres personnages autour de moi.
Est-ce que c'est un choix pour toi de jouer Phèdre de manière plus tragique?
Oui, je préfère. Je suis assez classique dans mes goûts et j'aime bien respecter les choses comme ça se fait naturellement. Okay.
Et du coup, pour toi, Nicolas, le côté mettre en ridicule, etc.
Moi, c'est surtout que j'ai un humour assez. J'adore l'humour noir un peu. Où le contexte se prête pas à faire quelque chose de comique, et on essaye de mettre ça en comique. Je trouve que ça fait... c'est un humour assez original et qui casse un peu les stéréotypes. C'est amusant à écouter, je trouve.
Comment toi, en tant que comédienne, tu as fait pour à la fois allier la parole qui reste quand même très classique, et le jeu qui est plutôt moderne dans des salons, etc.
Je pense que ça se fait assez naturellement avec l'aide des autres personnages sur scène. Comme eux, ils vont le jouer de façon plus naturelle, justement, comparé à moi. Ça va créer un décalage. Donc finalement, je ne suis pas spécialement obligée de le jouer de façon tellement naturelle que ça.
Comment vous avez construit les personnages comment vous avez pris possession finalement de ces personnages qui sont des personnages classiques et
Déjà, moi, j'ai essayé de définir un peu le caractère de chaque personnage. Non, en tant que servante, je trouvais ça amusant de la mettre en train de faire le ménage, parce qu'en soi, c'est son métier dans la pièce. Et donc, pour casser un peu le truc, je voulais qu'elle soit totalement extravertie. Elle a un caractère très spécial qui fait un gros contraste avec quand il y a Fed qui est totalement triste et saoul. C'est assez amusant. Et puis, pour d'autres personnages, par exemple, il y a le personnage de Terramen, c'est une que je joue d'ailleurs. J'ai voulu le mettre en grand-père parce que je trouve que ça lui correspondait bien et ça permet aussi de mettre un autre aspect comique. En fait, je voulais vraiment donner un caractère différent à chaque personnage.
Et toi, du coup, en tant que comédienne, comment tu arrives à la fois prendre les indications du metteur en scène et à mettre de ta personne dans Phèdre ?
Ok, donc du coup, il avait noté sur son texte les personnalités de chaque personnage. Donc, on a déjà pu choisir nos personnages en fonction des personnalités qu'on arrivait le mieux à représenter.
Donc, dans la mise en scène, tu as décidé de mettre la vidéoconférence au centre de tout ça. Pourquoi avoir choisi d'utiliser ce moyen de communication?
Alors, y a plusieurs raisons. Déjà, oui, c'est plus moderne, ça permet de donner un côté assez original à la pièce, parce qu'on voit ça, je sais pas si on voit ça ailleurs, pas certainement, mais j'ai jamais vu ça. Mais c'est aussi que il faut que je mette en scène rapidement tout ça, donc le fait qu'on puisse faire des répétitions plus facilement distancielles avec la mise en scène, c'est beaucoup plus facile déjà pour faire ça rapidement. Et puis, oui, c'est à peu près tout en soi.
Est-ce que ça implique une manière de jouer différente, d'imaginer qu'il y ait de la vidéo dans la pièce?
Oui, alors déjà rien que pour les répétitions, quand on est en présentiel ou en distanciel, c'est pas la même chose. En distanciel, on peut plus travailler la voix, le texte, mais on peut pas vraiment du coup travailler les mouvements sur scène, les déplacements. Donc c'est important d'avoir quand même des répétitions en présentiel pour justement travailler toutes les parties.
Et sur scène, le fait qu'il y ait cette idée qui est que tous les personnages soient en visio, est-ce que en tant que comédienne, quand tu joues le rôle de Phèdre, ça change quelque chose?
Honnêtement, pour l'instant, j'arrive pas bien à m'imaginer comment ça peut être, donc je le joue comme si on allait le jouer sur scène.
J'avais une question un peu plus générale qui est pour vous, la visio, vous êtes tous les deux étudiants et étudiantes, et ça a pris une place énorme, la visio, dans nos vies. Et du coup, je voulais savoir, vous, comment vous positionnez par rapport à ça. Je me dis que si vous l'avez mis dans une pièce, c'est que ça fait certainement écho à quelque chose que vous vivez ou chose comme ça.
Donc, pour moi, la visio, ça a pris une place importante parce qu'on est obligé d'y être. On n'a pas vraiment le choix. C'est imposé à tous les étudiants pour les études. Et déjà, oui, il y a cet aspect que c'est vraiment compliqué de rester motivé. Et je voulais montrer qu'on peut avoir de la visio partout, même dans la pièce. Et cet aspect-là, il n'est pas vraiment évoqué. On voit juste qu'ils sont en visio, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas si c'est vraiment par rapport au contexte de la crise ou si c'est parce qu'ils sont juste à distance et qu'ils veulent communiquer. Mais ça permet de créer des interprétations, de s'imaginer des choses, de se demander pourquoi ils discutent par téléphone et pourquoi ils ne sont pas ensemble.
Et toi, ton opinion sur un peu la visio, le fait de le mettre en scène, etc.
Du coup, je rejoins ce qu'a dit Nicolas, c'est... C'est un petit peu obligatoire dans le contexte dans lequel on est. Mais c'est vrai que ça se fond bien dans la pièce, finalement. Le fait que les personnages discutent à distance, ça rappelle le contexte actuel, mais ça marche bien, ouais.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus du fond de la pièce, de son histoire, etc.
Donc raconter l'histoire de base de faire.
Oui, de base et de comment votre pièce, enfin de la re, du remaniement qui a été fait, quoi.
Bah, en soi, le remaniement ne change pas vraiment l'histoire. C'est juste, oui, ils sont à distance, mais ça reste la même chose. Donc, c'est que Hippolyte, bah, Phèdre est amoureuse d'Hippolyte, qui est le fils de son mari. C'est donc son beau-fils. Et donc, il y a cette histoire d'inceste, elle a honte. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai représentée en bourrée, parce que elle a tellement honte qu'elle se bourre la gueule pour éloigner sa paix en soi. Et donc, à un moment de la pièce, il y a Panope, c'est une de ses des seules scènes où elle est là d'ailleurs. Elle annonce que Thésée, son mari, est mort. Et donc, elle se dit qu'elle peut enfin être avec Hippolyte. Donc, elle va lui avouer son amour. Et le problème, c'est que bah, Thésée, en réalité, il n'est pas mort. Il revient dans l'acte 3. Ça choque totalement Phèdre. Elle est totalement déboussolée. Et donc, c'est là qu'arrive tout le drame. Il y a la mort de Nonne parce qu'elle annonce à Thésée que Hippolyte, c'est lui qui est amoureux de Phèdre, alors que c'est totalement faux. Donc Hippolyte, il est expulsé par son père, en soi, il renie. Et on ne dit pas vraiment qu'il est expulsé dans la pièce, parce que justement, avec le fait qu'ils ne sont pas au même endroit, ce ne serait pas logique. Mais on fait comprendre, oui, qu'il renie son fils. Et donc, oui, il y a Hippolyte qui meurt. Ensuite, Eunone se suicide parce que Phèdre a honte d'elle. Bah, elle la renie aussi parce qu'elle a menti à son mari. Et puis, au final, c'est Phèdre qui va se suicider parce que elle est amoureuse d'Hippolyte et son mari, en fait, n'était pas mort. Donc, tout le monde meurt.
Comment vous avez fait pour rendre une tragédie comique ?
Y a un vrai travail sur les personnages déjà. Après, ça, c'est encore des éléments de mise en scène que j'essaye d'introduire, mais que c'est compliqué parce que ça fait pas longtemps qu'on met en scène justement. Mais il y a la musique, il y a dans les déplacements, dans la gestuelle, ça peut être exagéré, donc ça rend la chose aussi plus comique. Il y a par exemple quand le téléphone sonne, on a dit que la sonnerie ce serait juste dring dring à la bouche. C'est pas grand chose, mais c'est des petits éléments comme ça. Comique, un peu juste ridicule. Et puis, il y a aussi Eunone, le fait qu'elle fasse le ménage pendant que Phèdre est en train de pleurer et tout ça. C'est un peu comique. Il y aura un plumeau multicolore pour faire la poussière. C'est ça. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Si vous aviez un dernier petit mot pour donner envie aux auditeurs de regarder votre pièce, ce serait lequel ?
Moi, je dirais que s'ils aiment le classique, mais qu'ils aiment aussi le décalé, ça permettra, oui, de voir une vision différente du théâtre antique, en fait.
S'ils ont envie de voir quelque chose de nouveau, mais en même temps classique, c'est l'occasion de redécouvrir Phèdre sous un autre angle.
Merci beaucoup.
Phèdre, écrit par le dramaturge Jean Racine en 1677, est une œuvre classique souvent étudiée pendant la scolarité. Pour ceux qui ne connaissent pas déjà cette tragédie, et pour les autres, une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, Phèdre, c'est l'histoire de Phèdre, la seconde femme de Thésée, alors roi d'Athènes. Elle éprouve un amour criminel pour Hippolyte, le fils de son époux. Tel est le fatal secret que lui arrache, après bien des prières, Eunone, sa nourrice. Au moment où elle vient de faire ce cruel aveu, Thésée est absent et bientôt le bruit de sa mort se répand dans Athènes. C'est Phèdre elle-même qui vient annoncer cette triste nouvelle à Hippolyte. Dans cette entrevue, sa tête s'égare et elle lui fait l'aveu de ses coupables sentiments. Hippolyte, épouvanté, la repousse avec horreur et Phèdre, humilié, jure de se venger de cet affront. Cette tragédie qui dure à l'origine 3 heures est écourté et remis au goût du jour par Nicolas Barré. Il supprime le rôle d'Aris et d'Ismène pour permettre aux spectateurs de visionner une pièce d'environ 1 heure, ce qui rend la pièce plus accessible, même à des néophytes. Il ancre Phèdre dans une époque très actuelle en mettant au centre de sa mise en scène la visioconférence. Il est important pour lui d'apporter ce moyen de communication qui a pris une place importante pendant la crise sanitaire sur scène. Le choix de faire entrer Phèdre complètement bourré sur scène permet également de la rendre plus moderne. Le metteur en scène cherche à mettre en dérision son personnage, mais également à parler de manière plus légère d'un sujet sensible, l'inceste. On sent un parti pris de la part du metteur en scène de faire rire le spectateur malgré une œuvre tragique. Cependant, il garde l'idée d'une pièce qui tourne autour de l'amour impossible et des conséquences irrévocables que cela incombe sur le destin de tous les protagonistes. Cette émission fait partie de la saison 2 des Trois coups sur les ondes. Vous pouvez retrouver les épisodes sur le site Radio Campus Angers. Nous vous remercions de nous suivre et nous espérons que vous profitez des pièces diffusées sur Twitch et YouTube. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les dates de diffusion, suivez-nous sur Instagram et Facebook @festivallestroiscoups. Un grand merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses d'avoir participé à notre émission. Juliette Chevet, Louise Lefebvre, Justin Loisy, Inès Poirier, Martin Bélier et Amélie Rochet. Merci à Radio Campus de nous prêter leur studio et leur matériel et de nous allouer leur temps. Merci également à Cobalt d'avoir cru en notre projet. Merci pour le mixage et le suivi de projet. Cette émission est réalisée par trois membres du bureau des Trois Coups, Zoé Paré, Emma Muller et moi-même, Dorian Rochet. L'émission est coproduite en partenariat avec Cobalt. Merci beaucoup pour votre écoute et à jeudi prochain, 16h30. À bientôt.